Je me permets, hein, parce que j'aime bien les jeux de devinettes aussi. J'y verrais une inspiration un peu maoïste ou...
Oui, écoutez, alors je pense qu'effectivement, il y a plusieurs influences dans mes vêtements que parfois moi-même je ne vois plus, mais qui sont assez présentes. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit côté militaire, parfois un peu punk, mais aussi taillé, parce qu'on a aussi quand même des vestons, des choses beaucoup plus construites.
C'est dingue, parce que vous mettez en rapport deux mots qui ne vont jamais ensemble. Punk et militaire, je trouve extraordinaire. Et dans la vie, ça ne fait pas grand-chose, mais apparemment, dans les vêtements et dans la mode, ça marche.
Ouais, alors ben, je pense que le vestiaire masculin n'a pas été encore beaucoup... On commence à s'y intéresser maintenant, ça fait quelques années, mais fondamentalement, le costume trois pièces n'a pas énormément évolué. On porte encore les costumes de nos papas.
Comment vous expliquez-vous que ces dames, quand elles vont au magasin, elles ont droit à toutes les fantaisies, et puis moi, quand je débarque, excusez-moi, mais à part un genre, il n'y a rien d'autre pour moi.
Ben, je crois que l'origine est assez simple à trouver. Ça remonte en fait au milieu du 19e siècle, où en fait l'industrie a commencé à se développer. Et en fait, là où il y avait encore des dandys qui étaient justement habillés de façon un peu affriolante, comme ça... Le monde de l'industrie a commencé à préférer justement les hommes habillés plus sobres et enfin s'inspirer plus confiance en fait. Bah déjà le noir aussi, la proéminence du noir dans le costume. Le noir a aussi plusieurs origines. Il y a aussi une question religieuse à la base, une question pratique parce que dans les grandes villes industrielles comme Londres à l'époque au 19e, il y avait ces usines à charbon. Donc tout était noir, donc il fallait s'habiller. Voilà, le noir couvrait un petit peu la saleté aussi. Voilà. Et puis donc c'est resté et je pense que justement il y a beaucoup à dire et c'est aussi un petit peu volontaire pour moi de rester quand même dans ces codes un petit peu de cette gamme de couleurs victoriennes parce que je trouve que c'est hyper amusant de jouer avec des codes historiques et puis de les combiner avec des choses plus modernes et plus...
C'est dingue parce que encore une fois je me permets des analogies qui peut-être ne se font pas mais un concepteur de jeux vidéo aurait pu parler comme vous parce que c'est le seul endroit où je vois qu'on peut associer des anachronismes.
Le monde du jeu vidéo c'est aussi un monde que je trouve vraiment passionnant parce qu'on y trouve une forme de liberté justement qu'on n'a peut-être pas partout. Ouais, effectivement. D'ailleurs, créer des costumes pour jeux vidéo, ça aurait bien pu me plaire aussi, je pense. Ouais.
Bon, là, ça m'étonne pas.
Hein. Mais bon, il n'y a pas les problèmes de production, là. Ouais, c'est clair. Et puis voilà, je vous montre ce modèle parce que je l'aime bien parce que je trouve que justement, il combine assez bien. C'est un tissu assez moderne, assez innovant. Justement, il est assez intéressant, il a un beau tombé. Et puis, je garde cette gamme de couleurs assez noire. On revoit le détail ici. De la poche. Et puis ça, c'est mon petit détail maison, c'est qu'en fait, le revers est soudé à la ligne d'épaule. Du coup, ce qui permet une grande liberté au niveau des cols. Par exemple, ici, ben voilà, j'ai créé une espèce de col soudé aussi à la nuque.
Qu'est-ce qui vous a inspiré ce genre de col ?
Alors, en fait, c'était mon travail de diplôme lorsque j'étais encore à l'école. J'ai travaillé justement sur les dandys du 18e siècle. Et en fait, mon idée, c'était de ramener en fait une forme d'érotisme et sensualité dans la coupe, donc en créant des fondus. Pour moi, c'est un peu le comble du luxe. Pour moi, le luxe, c'est de savoir qu'on porte quelque chose d'exception, mais que ce n'est pas forcément visible. Je trouve ça intéressant de rester quand même assez sobre et modeste à ce niveau-là.
Comment on pourrait définir le dandy ? Qu'est-ce que c'est, au fond, un dandy du 18e ?
Ah, le dandy du 18e, alors c'était ces anciens aristocrates donc qui venaient de familles à l'époque nobles.
Et donc très riches.
Très riches, et qui avaient perdu en fait leur pouvoir. Et du coup, par le vêtement... par l'ostentation, justement, par le show-off, je ne sais pas comment le dire, ben justement, ils voulaient rétablir un petit peu leur rang social en société. Et d'ailleurs, ils ont quand même aussi transmis beaucoup de codes dans la garde-robe masculine. Par exemple, au 19e siècle, c'était absolument inadmissible de porter une redingote noire dans un parc l'après-midi. Il fallait porter une redingote grise. Et entre eux, ça leur permettait aussi de se reconnaître. Ils disaient, ah ouais, lui, il a du sang bleu. Voilà. Le sang bleu, c'est donc ce qu'on attribuait aux familles royales. C'était un sang noble.
Ça nous amène quelque part sur un vrai phénomène de société en lien avec la mode et le vêtement. C'est justement, que ce soit dans n'importe quelle génération, mais particulièrement chez les jeunes, dans les cours d'école, on fait parfois aussi des distinctions entre jeunes ou les parents entre eux, parce que j'ai une marque, moi j'ai ceci, moi j'ai ça. Vous avez quel regard, vous, par rapport à ça ? Parce que, indirectement, le vêtement exprime beaucoup de choses sur la réalité, finalement, sociale de quelqu'un.
Ben justement, aujourd'hui, les anthropologues du vêtement, ils ont justement amené un nouveau regard sur le vêtement. C'est-à-dire qu'on a découvert des populations dans le sud de l'Amérique du sud, justement, au sud de l'Argentine, où des gens vivaient quasiment nus, dans la neige, mais étaient pleins de parures. Donc ça signifie en fait qu'avant d'avoir une vocation protectrice, le vêtement a une vocation justement sociale. On s'est habillé d'abord pour se démarquer ou pour créer des groupes avant de se protéger.
Alors vous, quand vous créez, on voit bien que vous allez faire que la personne se démarque. Vous voulez qu'elle se démarque dans un genre particulier ?
Ben, j'aimerais justement lui transmettre un petit peu un regard nouveau sur l'homme du 21e siècle. Je pense qu'on s'est beaucoup transformé ces dernières années, mais que le costume n'a quasiment pas bougé. Puis je pense que justement, il n'est plus forcément en adéquation avec qui on est en tant qu'homme aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les hommes ont commencé aussi à accepter leur part de féminité, ce qui pour moi en fait renforce leur virilité. Je pense que ben voilà, je suis papa, j'ai la chance d'être papa, et je réalise aussi que finalement des tâches ménagères, des choses à la maison qui doivent être faites, ça me dérange pas du tout de les faire. Au contraire, je suis content d'aider ma femme, ce qui n'est pas le cas forcément dans d'autres pays, c'est vrai. Mais je pense
que dans d'autres générations chez nous,
dans des autres générations, ouais, c'est voilà, ça, ouais.
Voilà. Mais pour moi, si on regarde justement les sociétés les plus, je vais pas dire civilisées, mais les plus occidentales, comme le Japon, la Suisse aussi, les pays scandinaves, c'est quelque chose de complètement normal en fait. Et je pense que c'est assez évocateur de ce qui va se passer pour les autres pays dans les années qui vont venir.